Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI pour parler de football, de cette planète du ballon rond. Et nous allons évoquer aujourd'hui les éliminatoires de la CAN 2019 puisque nous sommes entrés dans cette troisième journée. Alors un aller de cette phase dite aller-retour et où certaines équipes pourront déjà se qualifier, d'autres rattraper leurs mauvais résultats. Ainsi, l'Algérie confrontée au Bénin, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang face au Soudan du Sud, la Mauritanie qui rêve d'une première CAN contre l'Angola, enfin le Cameroun qui tentera de défendre son titre de champion d'Afrique et se teste avec à sa tête Clarence Seedorf. De quoi dire, de quoi parler, de quoi expliquer, n'est-ce pas Hervé Penaud?
Mais bien sûr, il y a tellement de choses à dire. Bonjour à tout le monde, quel plaisir d'être
bonjour
avec vous.
Bonjour Hervé, il y a aussi Nabil Djellit. Bonjour Nabil.
Bonjour Annie et bonjour à tous.
Et puis Patrick Juillard, bonjour Patrick.
Bonjour Annie et bonjour à toutes et à tous.
Eric Chorin, là aussi pour la rédaction, bonjour.
Bonjour Annie, je vais refiler chercher mes lunettes et je reviens, hein, sinon ça va.
Vous avez remarqué hein, des super cracks en foot
un gros
africain,
plateau.
Notamment.
Ouais.
Et nos auditeurs ne s'y trompent pas, ils l'écrivent déjà sur notre page Facebook.
Ah, bah
ils vous attendent.
Ah, bah c'est bien.
Nous avons un invité africain aussi dans cette émission aujourd'hui, un ancien joueur passé par Rouen, Sochaux, Le Havre, un autre temps parce que c'est l'époque où ces clubs aussi pouvaient être aux avant-postes, ancien entraîneur, ancien Fennec, Abdel Djadaoui, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue
tous
dans Radio Foot International.
Merci beaucoup.
Merci de venir nous parler. Eh bien, vous nous parlerez de ce poste de sélectionneur d'un jour que vous allez occuper au cours du week-end avec les Black Stars. Et puis vous nous parlerez aussi, vous êtes un découvreur de talent du football au moins hexagonal, voire européen. Nous y viendrons. Autre découvreur de talent, mais pour une autre raison, Leonardo Jardim, eh bien, il est viré, comme on dit. Il quitte Monaco officiellement. L'entraîneur portugais dirigeait cette saison un bateau ivre, coincé en bas de tableau et même en zone de relégation de la Ligue 1, ce qui lui a donc coûté son poste. Pourtant, on osait croire qu'il redresserait la barre, comme chaque année, lui qui savait si bien mettre en valeur donc ses joueurs les plus jeunes, les moins connus, comme un certain Kylian Mbappé. Est-il injustement viré au vu de son excellent et enviable bilan? C'est sûr, dans ce monde-là, l'injustice frappe fort, mais nous en parlerons. Radio Foot, c'est parti. Alors, Abdel Djadaoui, il y a un match de football qui sera célébré au cours du week-end. C'est dans le cadre des célébrations en fait, du centenaire de la Première Guerre mondiale, celle de 14-18, donc 1918-2018, des commémorations qui se multiplient en France. Mais là, c'est à l'initiative de votre association culturelle et sportive qui s'appelle Black Star. Et je résume juste, c'est un hommage, le prétexte, on va dire, au Sénégalais Blaise Diaye, qui a été le premier député africain élu au Parlement français, qui avait notamment été chargé de recruter des soldats africains pour aider les alliés contre l'Allemagne. Valérie Nivelon, d'ailleurs, notre consoeur, l'a raconté dans une marche du monde. C'était le 17 février dernier. Vous pouvez réécouter cette émission sur RFI. Alors, le lien avec le football, eh bien, c'est que, d'ailleurs, le fils de Blaise Diaye, c'est une coïncidence, mais Raoul Diaye a été le premier joueur noir sélectionné en équipe de France.
Effectivement, et il a été le premier joueur noir sélectionné et il a également participé à la Coupe du Monde en 1938.
En 1938.
Donc c'était déjà extraordinaire à l'époque.
Son père est
marié avec une européenne et il a des enfants métis, donc il disait que au niveau ségrégation, il n'avait pas de problème pour
ouais.
lui.
Oui, ouais, lui, il était bien mélangé. En tout cas, dimanche se déroulera alors dans un stade de Picardie, dans la ville d'Albert, un match de football entre les anciens d'Albert, comme on dit, et les Black Stars. D'abord, le choix de la ville, c'est parce que c'est en Picardie, une ville qui a beaucoup, malheureusement, connu les affres de la guerre 14-18.
Effectivement, dans cette région, il y a une vingtaine de nationalités, donc et puis
de soldats qui se sont croisés,
et c'est une ville qui a subi énormément de dégâts, donc c'était rendre le les Black Stars rendent un hommage donc à Blaise Diagne. Qui a fait beaucoup. C'était un bâton qui s'est battu pour le racisme et tout ça. Donc c'était quelque. Mais je tenais à remercier bien sûr Eric Fabre et toute l'équipe dirigeante qui ont participé. Et puis pour l'organisation, ça a été une organisation lourde. Donc je tenais à tirer mon chapeau. Mais c'était quelque chose, un travail énorme.
Alors justement, ce match aura lieu donc dimanche après-midi dans le stade de la ville d'Albert. Alors c'est une ville qui est sur le circuit du souvenir. Il y a des mémorials, des lieux qu'on appelle mémorials de la guerre, mais il y a aussi évidemment beaucoup de monuments morts et beaucoup de cimetières parce que plus de 3 millions de combattants sont passés sur cette zone. Le match est symbolique d'abord parce que vous le voulez évidemment, le contraire de la guerre.
Exactement, c'est le sport rassemble et bon. Comme il disait notre président Eric Fabre, c'est on tire dans le ballon, il y avait une expression.
Oui, tirer dans le ballon au lieu de tirer sur vos frères, ouais, car le sport rassemble, la politique divise et la guerre tue.
Exactement, donc c'est quelque chose d'énorme à entendre, parce que bon, c'est ce qu'il faut.
Abdel Jadaoui, vous allez être le sélectionneur de quelle équipe des Black Stars? Qui y aura-t-il dans votre équipe de Stars?
On aura une équipe qui tiendra la route. Hein. Je pense qu'il y a, un gardien de but, il y aura Eric Samba.
Brice Samba.
Brice Samba, son père a été à l'OM et actuellement il est à Caen.
Mm-hmm. En Ligue 1.
Et un international polonais également qui a fait une finale de Coupe d'Europe face au Barça, Marion Glombowski.
Mm-hmm. Pascal Feindouno sera là.
Il y aura bien sûr, je vais venir.
Oui, faudra bien le cadrer lui.
Il y aura Moussa Saïb qui a fait comme une très très bonne carrière à Auxerre, Valence, Tottenham, Monaco, et je sais pas combien de sélections en équipe nationale d'Algérie.
Un grand talent.
Un très grand
talent.
Pas
loin de 80 à mon avis.
Pas loin de 80.
Ouais, pas loin, ouais. C'était le taulier.
Il y a Junior Ameu aussi, qui a joué à Nîmes, Roumanie, en Norvège, à Dubaï et à Oman. Ainsi que, bon, là, on va revenir à Pascal Fendou, qui devient une légende des Black Stars maintenant. Donc, il a joué à Bordeaux, Lorient, Saint-Etienne, Monaco et en Suisse, international guinéen.
Et face à vous, vous aurez des joueurs amateurs. Oui. C'est-à-dire, c'est des anciens professionnels contre des amateurs.
Oui, c'est toujours bon. C'est très symbolique. Bon, on rencontre. Ils sont tous amateurs, mais bon, c'est un match de football, un match amical, un match pour rendre un hommage. Donc, c'est l'essentiel, c'est de participer à ce match et dans un bon état d'esprit et de faire une bonne figure et faire plaisir aux gens qui sont sur la touche.
Patrick Juillard, les Black Stars, hein, on les connaît parce que c'est pas toujours les mêmes joueurs, mais c'est un groupe effectivement
voilà, on avait reçu,
très présent.
Ici même, on avait reçu l'un d'entre eux, Roger Itoto, un ancien international congolais, joueur qui avait beaucoup de talent, mais qui a eu sa carrière un peu brisée par une blessure quand il était à Lille. Et c'est une équipe un peu comme le Variété Club de France, mais côté de la diaspora africaine, en quelque sorte. C'est une équipe qui fait des matchs de bienfaisance pour donner du bonheur aux gens, pour faire un petit peu, c'est un prétexte à se retrouver aussi, ces matchs, parce qu'on sait que si on va à ces matchs, on va avoir beaucoup de gens qu'on connaît, nous et tous les suiveurs,
et qu'on pourra
au sens large du foot africain et tous les amateurs de foot globalement.
Alors, j'ai pas demandé à Eric Fabre depuis combien de temps ça existe, mais ça fait quand même un paquet d'années.
Je crois que c'est 83 ou 86.
Ça fait quand même, voilà.
83.
Depuis 83. Alors, il fallait avoir l'idée au départ, de mettre ça en place et de se dire que finalement, tous les joueurs, le nombre de joueurs africains qui ont pu évoluer en France, c'était tellement important, ils ont tellement marqué l'histoire du championnat de France, et de se dire, à un moment où ils peuvent être aussi des symboles. Des symboles, là, on parle de symboles de paix par rapport à l'organisation de ce match. Et puis, pour plein d'autres domaines, ils ont aidé à plein de choses. Et c'est vrai que les gens sont heureux de revoir d'avoir tous ces joueurs. Alors on parle d'Itoto, mais il y a tellement, ça m'est même très difficile de les citer, d'en citer certains, parce que j'en oubliais d'autres et je me sentirais mal à l'aise. Mais c'est vraiment, c'est un super truc, voilà, tout simplement. Et je trouve que c'est une très très bonne idée. Et puis là, pour à l'occasion de cet anniversaire du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, bah c'est super, quoi.
Ouais. Il y a aussi.
Il faut se rappeler aussi qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont venus combattre en France, ce qui permettra quand même à certains de pas oublier ça et de pas avoir de problème de prénom.
Hervé, toujours avec sa petite note provocatrice. Nabil, hein.
Moi j'ai eu la chance, je vais raconter mon expérience, j'ai eu la chance de les accompagner une fois à Oran, les Black Stars, notamment avec Eric Fabre qui est là. Je citerai aussi Albert Courriol, qui a aussi une cheville ouvrière. Enfin, si je dis pas de bêtises. Moi j'ai vécu la voiture de l'intérieur parce que on était parti, c'était pour rendre hommage aux anciens internationaux algériens qui étaient dans une forme de précarité, parce que les après-carrières sont souvent difficiles. J'avais pu également croiser des joueurs des années 80 qui avaient eu également des difficultés, vous savez, avec ces histoires de dopage liées à l'ex RDA. Moi, ce que j'ai ressenti dans cette aventure, c'est surtout de la fraternité, vraiment. Et il y avait des gens de toute génération. J'avais l'impression d'être dans une colonie de vacances également. Il y avait ce côté-là aussi.
Tu disais l'animateur, et tu
aurais ce que j'aimais, c'est que c'est à la fois des grands joueurs, parce que franchement, c'est des belles carrières, mais il y a aussi une humilité qui manque parfois aujourd'hui dans le football, et c'est ce que j'avais ressenti à la proximité de ces gens. Bon, après, monsieur Djadaoui, moi j'ai toujours beaucoup aimé parce que c'est l'ancien sélectionneur aussi de l'Algérie, donc c'est quelqu'un
Et t'aimes bien sur les anciens sélectionneurs.
Pour nous, c'est une référence. Tu vois ce que je veux dire. Après, on les regarde un peu comme des héros. Je pense qu'il faut garder ce regard-là.
Abdel Djadaoui, alors justement, vous avez eu aussi une carrière ici en France, et non seulement comme joueur, mais aussi vous avez été un découvreur de talent. Vous avez travaillé dans des centres de formation, et je crois que vous avez même découvert, alors c'est Nabil qui m'a aidé à trouver cette piste, mais un joueur qui a disputé la finale de la Coupe du Monde cette année.
Et qui a même marqué en finale.
En plus.
C'est Perezic,
qui a été croate
qui a été formé au FC Sochaux et qui a grandi petit à petit et s'est révélé en Coupe du Monde avec un but magnifique qu'on a vu.
Qu'est-ce que vous avez vu passer dans les centres de formation quand vous y travaillez, tant au Havre que à Sochaux?
Il y a eu beaucoup de joueurs.
Dorasso.
Dorasso, il a été international.
Mandanda, non?
En A.
Mansouri.
Mansouri, Sanson.
Zagbia.
Non, je n'ai pas eu lui. Delaunay.
Las Diarra, non?
Non. Non, non.
Et vous êtes
Christophe Rovaux aussi, le gardien de but.
En tant qu'ancien joueur, ancien entraîneur, on quitte jamais véritablement le monde du football.
Vous savez, c'est une passion, c'est incroyable, mais ça se retire pas comme ça. C'est ancré jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin. Bon.
Juste pour répéter que j'ai fait une carrière de 14 ans professionnelle. Donc deux ans à Rouen, 10 ans à Sochaux et 2 ans au Havre, j'ai fini là-bas.
Je crois que vous aviez été demi-finaliste de la Coupe de l'UEFA avec Sochaux.
Oui,
en
80-81.
80-81. C'est là que je vous avais découvert.
Exactement.
J'étais très jeune.
Et ensuite,
moi, j'étais pas né.
Je suis revenu en Normandie, donc au Havre, et là, j'ai fini ma carrière et j'ai pris la direction du centre pendant 12 ans. Donc.
Oui. Et voilà, vous voilà donc sélectionneur des Black Stars. Le rendez-vous est donc fixé au stade Henri Pothez, on dit.
Oui, c'est ça. Hein,
Henri Pothez, dans la commune d'Albert, dimanche 14 octobre à 15h. Et c'est un match à but caritatif
c'est
aussi.
C'est pas très loin de chez notre ami Naïm Moniol.
C'est entre Amiens et Bapaume. On a regardé sur la carte quand même, parce que c'est vrai que c'était pas très connu.
Péronne.
Oui, Péronne aussi, dans le coin de Saint-Quentin, tout ça.
C'est ça.
Eh ben, restez avec nous, Abdel Djadaoui, parce qu'on va continuer à parler de football africain. Et c'était une belle introduction pour évoquer cette troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Avec donc les sélections africaines en regroupement et objectif évidemment qualification pour cette CAN 2019, ça sera peut-être et sans doute possible pour certaines équipes mardi soir à l'issue donc de la troisième et quatrième journée qui sont pratiquement consécutives. On en a déjà parlé hier dans Radio Foot. Le groupe C, c'est donc celui de l'Algérie. L'Algérie qui jouera samedi à Blida contre le Bénin. Elle est dans le groupe D où pour l'instant elle est en tête. Mais c'est vrai que ça arrive juste après un nul en Gambie. Oui. Alors, il y avait peut-être des circonstances atténuantes pour ce premier match du sélectionneur qui est Jamel Delmadi, Nabil.
Oui, c'était son premier match, donc il y avait une forme également de
d'attente,
de pression et d'attente pour lui. C'est un match, on ne va pas rappeler, qui s'est déroulé quand même dans des circonstances un peu surréalistes.
Si, bah, dites-le. Oui. Il y a eu beaucoup de retard.
Oui, parce qu'il y a eu, pas un envahissement, mais il y a eu un public beaucoup plus important que prévu dans le stade gambien et beaucoup ont notamment peuplé la main courante et ça ne répondait plus forcément au cahier des charges de la CAF. Bon, finalement, un accord a été trouvé. Les joueurs algériens sont quand même retrouvés dans une situation assez anxiogène puisqu'ils ont attendu une heure et demie avant de pénétrer
sur
le terrain, tout en sachant qu'ils y avaient du public à proximité et qu'on n'était pas non plus à l'abri d'un débordement ou d'un envahissement. Bon, pas les conditions idéales pour jouer au football. Donc, au-delà de ce premier résultat technique pour l'Algérie,
le terrain aussi.
Oui,
le
la qualité.
Était, bon.
Bon, mais ça c'est malheureusement
ils avaient déjà vu pire malheureusement.
Et là ils retrouvent donc Blida qui est un peu le sanctuaire du football algérien sur les 10 dernières années avec une pelouse pour le coup qui sera beaucoup plus adaptée au jeu des Fennecs avec un ancien joueur que Abdel Djadaoui a croisé quand il était sélectionneur qui est devenu entraîneur qui est Jamel Belmadi qui essaie de remettre un peu de la normalité et de l'ordre tant la séquence précédente avec Rabat Madjer avait été.
On pourrait dire les séquences précédentes.
Ouais, mais la dernière quand même, c'était un summum en termes d'étrangeté, mais on va pas tirer sur l'ambulance et on va être respectueux à l'égard de ce grand joueur qui n'a pour le coup pas été un grand entraîneur, avait été quand même assez loufoque. Donc pour l'Algérie, c'est minimum 4 points sur 6 sur cette double confrontation face au Bénin, mais Jamel Belmadi qui arrive avec des intentions de jeu et qui veut instaurer une culture de la gagne et remettre de la concurrence et de l'ordre dans ce groupe-là vise forcément les 6 points à Nice.
Hervé, ce groupe C, l'Algérie donc en tête, hein, on l'a dit, il y a le Bénin, le Togo, la Gambie, les Fennecs paraissent être l'équipe la plus forte.
Oui, mais a priori avec les Fennecs depuis quelques années, c'est compliqué.
C'est beaucoup depuis plus le coup difficile. D'éclat à la Coupe du Monde en 2014.
Voilà, c'est-à-dire depuis 2014, ben on a quand même une Algérie qui a de très bons joueurs individuellement, ça y a aucun doute. Quand on voit, je regardais encore cette sélection, et encore on peut se passer de joueurs comme Boulaya qui fait une saison incroyable avec Metz, comme Boudebouze, etc. Il y a des joueurs qui sont pas là, mais vous avez encore un effectif de très très haut niveau.
Sauf derrière. Parce que les noms qui sont toujours cités, c'est toujours les joueurs offensifs.
Oui,
et c'est le piège de cette sélection algérienne qui a un déséquilibre.
Mais des joueurs comme Ben Sebaïni, Mandi, etc., etc., au niveau africain, ça devrait être des joueurs sur lesquels on pourrait s'appuyer. Je veux dire, quand vous regardez l'équipe en face du Bénin, les joueurs sont quand même d'un calibre largement inférieur. C'est-à-dire, maintenant, faut juger par rapport à l'adversité. Mais malheureusement, il n'y a pas de collectif dans cette équipe. Il n'y a jamais eu de jeu collectif ces dernières années qui a été mis en avant. Alors maintenant, Abel Madi de trouver justement ça, ce petit truc qui fera qu'à un moment, les qualités individuelles vont pouvoir se mettre au service du collectif. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça va être son défi. C'est pas si simple parce qu'on croit toujours, on aligne des noms.
Ils pourront pas faire pire là.
Parce que oui, c'est vrai. Mais contre le Togo, la victoire contre le Togo, ça avait été, je dis pas chanceux, mais presque, parce que les Togolais ont largement des occasions d'égaliser.
En Gambie,
dans des conditions vraiment particulières, c'est pour ça que ce match-là, pour moi, il est un peu spécial. Mais n'empêche qu'ils n'ont pas été capables de s'imposer. Donc ce sera pas facile contre le Bénin. J'ai vu que Belmadi a déjà expliqué qu'il fallait une victoire impérative. Ça, il a tout à fait raison. Il faut surtout retrouver cette force à domicile, à Blida, se dire on est chez nous, c'est notre terrain et on y va pour s'imposer.
Abdel Djadaoui, justement, comment vous la voyez, vous, cette sélection des Fennecs actuellement? Dans quel moment est-elle? Un moment porteur, un moment de doute, un moment de réorganisation?
Bah écoutez, dans cet effectif, il y a énormément de talents. Pour moi, qui a analysé cette équipe, c'est le jeu à domicile et le jeu à l'extérieur.
Il y a qui sont différents.
Qui sont différents. À domicile, bon, sincèrement, ce match-là, je pense qu'ils vont le gagner, hein, à mon avis. Par contre, à l'extérieur, où il faut aller au Soudan, au Gambie ou n'importe quel pays d'Afrique, où là, la mentalité n'est pas du tout la même. Là, c'est la guerre. C'est la guerre, il faut y aller. Et on a des joueurs binationaux qui jouent en Europe, ils n'ont pas ces habitudes-là. Ils n'ont pas ces habitudes de contact, de triche, de vice, de tout ce que vous voulez.
Gestion de l'effort aussi.
Gestion d'effort, le physique, parce que le footballeur africain, il est très très physique. C'est tous des costauds.
Oui. Donc le côté talent et technique ne peut pas suffire.
Oui, bah, et ça suffit pas du tout.
Non, mais Patrick. J'avais regardé le dernier match contre la Gambie. Malgré le retard, j'étais resté, j'avais regardé le match.
Plus tard.
Et en fait, ce qui frappe, c'est vraiment l'équipe. Et il y a deux compartiments. Il y a un compartiment offensif qui arrive toujours à produire des choses intéressantes parce que les talents sont quand même hors normes par rapport à la moyenne des équipes du continent. Il y a peu d'équipes qui ont des joueurs du niveau de Mahrez ou Brahimi aujourd'hui en Afrique. Et après, le compartiment défensif, c'est des erreurs de l'autre. Bon, la dernière fois, c'était Ben Sebaini qui en fait à peu près une énorme à tous les matchs que j'ai vus. Aïssa Mandi, qui est beaucoup moins bon en équipe nationale qu'il ne l'est dans son club.
Mais
en
justement,
Liga.
Parce qu'il va pas, comme l'a dit Abdel, c'est pas un joueur qui est prédisposé pour aller, qui est pas dans l'agressivité. Et quand tu vas jouer en Afrique,
mais avec Walid Alilodzic, ils étaient arrivés.
Ouais, Mandi avec Walid Alilodzic, il était à droite, il était pas dans l'axe déjà pour
mais
commencer.
Ils étaient arrivés à faire à combiner un peu la qualité offensive, mais il y avait un socle, il y avait
un
et
bloc,
ça a
bloc,
volé en éclats.
Ça, c'est quand
et
même
c'est
même
le défi de Belmadi, c'est-à-dire qu'il doit optimiser la qualité offensive en augmentant la solidité défensive, et c'est le joueur algérien préfère souvent attaquer que défendre, y compris les défensifs. Donc c'est pas évident.
C'est le rôle de l'entraîneur, tout simplement.
Oui,
c'est
voilà.
Le rôle de l'entraîneur.
C'est son boulot.
Voilà, c'est là-dessus qu'on l'attend. Parce que c'est pour ça que moi je suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'en gros il y a personne derrière en Algérie. Il y a quand même des joueurs. Je dis pas que c'est du niveau des attaquants. Attention.
Voilà.
Hein,
mais
il faut savoir quand même.
Il y a
quoi
faire une défense potable.
Enfin, c'est pas.
Et il y a un bon gardien avec Mboli.
Vous êtes quand même les champions d'Afrique en titre. Quand vous me dites au départ Tekken Gadeux, vous êtes pas sûr que le Cameroun va avoir une défense qui va survoler la compétition,
ouais, mais
et pourtant ils ont été solides. C'est qu'à un moment, c'est un état d'esprit, une volonté de défendre son
la Coupe du Monde le démontre régulièrement.
Et la Coupe du Monde le démontre, effectivement.
Éric Chorin.
C'est peut-être l'occasion de demander aussi à Abdel Jadaoui s'il pense que Jamel Belmadi est l'homme de la situation en Algérie après une grosse période d'errance et une nomination de Madjer. On peut toujours dire qu'il n'était pas à sa place, mais on peut surtout penser que la fédération n'aurait pas dû le nommer.
Enfin, donc si là, vous dites que c'est la fédération, c'est peut-être pas la fédération, mais ça sera
le
débat.
Ou plus haut, mais en tout cas,
non,
il n'aurait sans doute
rien,
pas dû.
Non, je pense que la fédération est beaucoup fautive dans les choix des entraîneurs. Avant Belmadi, il y a eu trois entraîneurs. Mm-hmm. Il y a eu
Lekens et Alcaraz.
Alcaraz et
Lekens, le belge.
Après Gourcuff.
Non, il y a eu un serbe aussi.
Rajevac.
Alors les deux, le serbe et l'espagnol, ils parlaient pas du tout la langue.
Ouais.
Mm-hmm. Premier obstacle.
Donc ils avaient des traducteurs. Les traducteurs, bon, ça fait pas une connexion directe, ça fait une.
Ouais, ça fait une boucle.
Et le traducteur, il peut dire n'importe quoi aussi. Hein. Il peut traduire ce qu'il veut.
Et déjà, Rajevac disait n'importe quoi, donc après il faut traduire.
Donc, il y a eu une maldonne de la Fédé déjà.
Ouais. Hein.
Bon, après il y a eu Madjer qui, malheureusement, comme disait Nabil, c'était un très très grand joueur.
Mais il n'était pas fait pour être.
J'ai joué avec lui, je le connais par cœur, donc. mais il n'est pas fait pour
être sélectionneur.
Sélectionneur. Clairement. Et il s'est pas bien toujours entouré. Bon, quand on est moyen, il faut bien s'entourer avec des spécialistes pour réussir. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais Jamel Belmadi, je l'ai eu comme joueur aussi, en sélection. Et c'est un joueur qui a, pour moi, qui a
du caractère.
Du caractère.
Il a la tête sur les épaules. Hein.
Il a du tempérament et je pense que son séjour au Qatar lui a fait énormément de bien, aussi bien au niveau des clubs qu'en sélection, donc qu'il a dirigé. Et je pense que je pense qu'il peut mener son affaire à fond dans cette équipe, à condition bien sûr de mettre beaucoup de rigueur. beaucoup d'agressivité, ce qu'on n'a pas, beaucoup de dans les replacements comme l'ont dit mes confrères là. Dans le replacement défensif, lorsqu'on n'a pas le ballon, comme l'a dit Patrick, quand on a le ballon, on touche, ça joue.
L'équipe
quand on
est perd
le ballon,
en deux, en fait.
On perd le ballon au football, c'est ça. C'est quand on a la perte du ballon, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là qu'il faut être, on joue à 11, il faut défendre à 11. On attaque ensemble, ok. Mais quand on perd le ballon, et c'est là, bon, on incrimine la défense, mais, ni le milieu, ni les attaquants, quand ils ont perdu le ballon, ne gênent pour essayer de freiner les actions adverses, ni les milieux de terrain qui sont pas suffisamment agressifs pour récupérer ce ballon, et malheureusement, ça tombe sur la défense et le gardien de but.
Ça les expose.
Parce que tu parlais de la défense, je pensais même à un jeune joueur comme Attal, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Alors c'est pas un grand défenseur pour l'instant, c'est un jeune joueur, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose. Il y a quand même du monde, il y a personne.
Il a été rappelé d'ailleurs pour ça. Ouais,
absolument.
Après la maladie du footballeur algérien, c'est surtout à l'extérieur, c'est la touche de balle. Il y a trop de touches de balle également, pas assez de style direct, et c'est là-dessus que Vahid Halilhodžić, pour en revenir à lui,
il avait apporté.
Il avait la recette et le remède.
Parce qu'il connaissait le foot africain.
Il connaissait le football africain.
Oui, c'est ça, pour avoir entraîné la
le football, les joueurs africains, il leur faut quelqu'un toujours derrière, comme des enfants. Mmh. Il faut toujours les bousculer.
Quelqu'un de charismatique.
Voilà, il faut les bousculer, il faut leur répéter un peu comme moi j'ai fait la formation. Il faut que je répétais tout le temps les mêmes choses.
Mais pourquoi l'Africain pourquoi les Africains ils peuvent pas se responsabiliser quelque part seuls? Comment ça peut s'expliquer ça?
Enfin, ça dépend les
non mais si on dit qu'il y a des forces sur quelqu'un.
L'acclicisme, je pense que bon c'est une vie cool, l'Africain est cool. Et ça, il faut que le sélectionneur soit derrière tout le temps et bon, répéter tout le temps
plus de rigueur,
plus d'agressivité, plus de dans les schémas tactiques, dans l'organisation. Et il faut beaucoup de répéter sans arrêt pour avoir des résultats, parce que bon, on a les Fennecs, ils ont une équipe quand même qui tient la route sur
qui
papier.
Impressionne en tout cas les adversaires. Ouais. En tout cas, l'Algérie est donc dans ce groupe D. Elle jouera le Bénin en aller en retour.
Il faut se méfier quand même du Bénin qui est bien placé dans ce groupe avec 4 points.
Tout à fait.
À prendre des points. Exactement. Avant, parce qu'ils aimeraient bien être la deuxième équipe à y aller à la place du Togo.
Et ils ont réussi le Togo-Bénin l'autre fois où ils ont réussi à arracher le nul au Togo. Et ça, c'était.
Et puis pour Michel Dussuyer, c'est quand même un beau parcours. Hein, et on sait qu'il a fait déjà du bon boulot en Guinée.
Il revient.
Et c'est un peu un combat, l'impression que ça donne, c'est un peu un combat entre Michel Dussuyer et Claude Leroy avec le Togo, qui le Togo joue gros, attention, c'est la double confrontation togolaise là.
C'est pas simple, jouer en Gambie n'est pas simple.
Non, mais le match aller, c'est au Togo d'abord.
Faudra pas dessuyer les plâtres à la fin surtout. Finir sur une touche du monde. Enfin, si
passons au groupe C avec les Panthères du Gabon. Alors elles, déterminées et peut-être dans une nouvelle phase, vous allez me le dire. Le choix du sélectionneur, on s'en souvient, a prêté un peu à confusion. Finalement, c'est Daniel Cousin. Il a pris seul les rênes de l'équipe du Gabon et peut-être cadeau de leur star, Pierre-Emerick Aubameyang, est là. Il a rallié Libreville pour disputer le match face au Sud-Soudan du Sud, les Faucons de Gédiane aussi, dit-on, par rapport aux Panthères. Pour la plus grande joie alors des concitoyens, des supporters, et puis celle de Daniel Cousin, qui étreint donc sa tenue de sélectionneur. Il a quand même été déjà manager général de cette équipe nationale, et ramener les Panthères en tête du groupe, c'est ce qui est sa mission, dit-il au micro de Fritz Koum.
On a retrouvé de la sérénité, on a retrouvé de la joie et de la stabilité. Le nouveau staff a été très bien reçu, familiarisé rapidement avec les joueurs, et je suis très satisfait de mes joueurs. Alors, il faut positiver, mathématiquement c'est encore jouable. On va faire le plein contre le Soudan et on va se relancer dans cette poule. On se doit de le faire, c'est une obligation, parce qu'on a, on a le potentiel, on a le talent, on a des joueurs quand même de classe mondiale, donc je suis pas inquiet à ce niveau-là. Maintenant, il faut bien faire le travail, il faut être sérieux, appliqué, concentré. C'est vrai que c'est une équipe on a regardé les vidéos, c'est pas une foudre de guerre, c'est pas la meilleure équipe de la poule, mais c'est à nous de faire le travail sérieusement.
Alors faire le travail sérieusement.
Il doute de rien, mon cousin. va faire le plein, après ils corrigent, on doit faire le plein.
Mais il a raison.
Oui, il a raison.
Quand on voit le niveau de cette équipe du Soudan du Sud,
ouais, c'est l'une des plus faibles en Afrique.
Qui est, franchement, pour des équipes comme ça.
Malheureusement aussi dû au contexte particulier dans lequel est plongé ce pays.
C'est le dernier pays.
À une époque, la CAF organisait un tour préliminaire entre les équipes les plus faibles pour en éliminer la moitié pour qu'il y ait des poules présentables.
Mais là, il va falloir 24 équipes à la CAF.
Ouais, mais d'accord, mais. À une époque, il y avait Djibouti aussi qui prenait en moyenne 6 buts par match. Bon, c'est quand même pas très sérieux. Non. Alors, j'espère pour le Gabon que ça va se passer comme le cousin l'a dit, parce que si jamais ils ne prennent pas 6 points sur ces deux matchs, ça va être la débandade. Là, hein. Ça va être déjà, ils seront pratiquement foutus pour la qualification, et en plus, ce serait un vrai désaveu pour Daniel Cousin.
Alors, ce qui est assez drôle, c'est que la symbolique, c'est d'avoir vu arriver Aubameyang avec Lemina, avec Bouanga, c'est-à-dire un peu les stars qui sont arriver en même temps pour montrer ça
Europe.
Et maintenant on va bien sûr
on va prendre les choses en main.
Allez, on va reprendre les choses en main et puis on se serre les coudes parce qu'on sait que dans cette équipe le problème c'est que ça part à volo, c'est-à-dire que l'un est comme ci, l'autre est comme ça, l'un il y a plus de lumière, l'autre moins de lumière,
c'est enfin, un peu le Club Med quoi.
C'est un peu du grand n'importe quoi. Alors espérons maintenant qu'il y a Daniel Cousin, ça change. Bon, j'ai discuté assez longuement avec lui, il est très confiant, et c'est vrai qu'il a raison de partir sur ce principe, il faut les 6 points. De toute façon, il faut les 6 points contre le Soudan. Après, on pourra voir la suite, on pourra voir comment se relancer, mais pour l'instant, il y a pas d'autre alternative. Ça reste quand même une équipe de bon niveau, le Gabon, qui montre pas évidemment tout ce qu'elle a dans le coffre, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs intéressants, il y a des joueurs d'expérience qui connaissent le foot africain. Alors là, on parlait des joueurs qui ont l'habitude d'avoir évolué en Afrique. Pour le coup, là, vous en avez un paquet qui sont habitués à ça, qui sont habitués à ces combats, et pour l'instant, ça délivre pas. Maintenant, ces deux matchs-là vont être importants. Important aussi pour Daniel Cousin, pour exister, pour montrer qu'il lui aussi a la capacité d'être le sélectionneur de tout cette équipe. Fait. En tout cas, il est apprécié par la plupart des joueurs, ça c'est important.
Oui, il a été parmi eux aussi, on se souvient, à la Coupe de la CAF 2012.
Il faut qu'il passe de la peau du grand frère facile, à celui de sélectionneur, en quelque sorte, si je peux me permettre.
Parce que la difficulté, c'est prendre des décisions. Prendre des décisions, c'est plus pareil.
Mais bon, il est respecté. Donc,
oui, tout à fait.
Oui, il a 55 sélections avec les Panthères, il a joué au FC Sapin, non, il est aussi, il a beaucoup joué en Europe, mais il est aussi entre guillemets de là-bas, donc vous pensez que il peut prendre une sélection dans cet esprit-là de justement il est au Gabon, il travaille avec eux, il y vit, donc il a quand même une grande connaissance par rapport, alors évidemment, à Camacho qui arrivait d'Espagne et qui parlait pas le français, c'était un peu les problèmes que vous soulignez tout à l'heure.
Effectivement.
On n'a pas besoin d'avoir été déjà sélectionneur.
Non, je pense qu'il connaît parfaitement
le contexte.
Le contexte, la sélection, les joueurs, il les connaît par cœur, donc je pense que il peut réussir dans sa tâche. Hein. Maintenant, le problème en Afrique, c'est que maintenant il y a plus de matchs faciles. Même contre les plus petites équipes, il faut travailler au maximum pour gagner. Il faut batailler. On a vu des matchs avec l'Algérie, le Maroc, la Guinée et compagnie. Mais il faut vraiment. Il y a plus de petites équipes. Hein. On voit même en Europe quand on voit une équipe européenne.
Mais en Afrique, j'allais dire d'une certaine manière, il y en a rarement eu, lié au contexte et aux conditions. C'est-à-dire que vous pouviez très facilement être battu en Tanzanie, équipes qui n'allaient pas à la CAN, parce que les terrains sont parfois compliqués, les arbitrages pas toujours faciles, les conditions d'accueil parfois un peu spéciales, et puis le climat, l'ambiance,
oui,
qu'à un moment,
des
joueurs venant d'Europe, par exemple, n'étant pas habitués à ce type de conditions, et ben d'un seul coup, ils explosaient en plein vol.
C'est pour ça, par exemple, que le Mali devra se méfier du Burundi.
Absolument.
Qui a fait un bon début de poule,
qui est deuxième,
qui peut s'inviter dans la course à la qualification.
Qui a pris un point au Gabon, et du coup, Gabon, il est quand même déjà en situation difficile pour la qualification. C'est un des rares pays moyens ou grands pays du football africain qui est en situation très compliquée quand même. Ça ne va pas être simple.
Passons au groupe I, où il y a une équipe qui aimerait bien s'inviter pour la première fois à une CAN et qui y travaille beaucoup pour ça. C'est celle de Mauritanie. Elle est sur une lancée de 2 victoires en 2 matchs. Et là, les joueurs sont déjà à Luanda. Vous allez l'entendre en Angola. Il y a une grosse communauté mauritanienne. Et ils sont venus les encourager à l'entraînement, leurs supporters. Mauritanie. Inch'Allah, 2-1, 3-0, c'est mieux. La Mauritanie qui court donc après sa première participation avec pour sélectionneur Corentin Martins, qui veut donc prolonger la dynamique positive.
C'est deux matchs qui vont être très importants parce que c'est une équipe avec beaucoup de qualité technique. On va faire deux bons matchs, essayer de revenir avec un résultat de l'Angola et puis après confirmer nos performances à domicile où je sais que les joueurs adorent jouer devant leur public. L'objectif et l'ambition, c'est de se qualifier, bien sûr. Maintenant, faut pas oublier qu'on est le petit poussé de ce groupe parce qu'on n'a jamais connu de qualification pour la CAN, alors que le Botswana, l'Angola et le Burkina, bien sûr, ont déjà connu une qualification. Donc il y a encore beaucoup de chemin, beaucoup de travail.
Corentin Martins qui répondait à Olivier Pron le lendemain de la victoire contre le Burkina Faso, c'était 2-0. Quand il dit petit poussé, Patrick Juillard, ils sont presque trop modestes.
Alors petit poussé, oui, par rapport au palmarès, à l'historique de l'équipe, mais par contre, au niveau de la structuration des choses, au niveau du travail de la fédération, au niveau des conditions d'entraînement des joueurs quand ils sont en rassemblement, la fédération mauritanienne fait du bon travail, a mis des moyens à disposition. Il y a une stabilité puisque Corentin Martins est en poste depuis, si je ne me trompe pas, 3 ans maintenant, fin 2015. Donc tout ça, ça fait des conditions un peu... Il copie un petit peu... Alors, au niveau de la stabilité, il copie un peu ce qu'a fait une autre équipe de la poule, c'est le Burkina Faso qui a fait confiance très longtemps à Paulo Duarte, qui a eu l'équipe depuis presque une dizaine d'années avec une petite interruption, mais en gros, c'est lui qui a façonné l'équipe. Et là, il profite aussi du travail qu'avait fait Patrice Neveu précédemment. Je trouve que c'est assez bien pensé. Après, le réservoir des joueurs n'est pas illimité, évidemment, mais je pense qu'ils sont capables, même si l'Angola a le vent en poupe avec le Primero de Agosto qui fait de bons résultats.
Les Palancas Negras, on les a déjà vus à la CAN. Hein.
Voilà.
Hervé.
Oui, moi, je voudrais prolonger sur l'histoire du travail fédéral, parce que là, pour le coup, il y a vraiment un travail qui est mis en place.
On s'était rendu avec Radio Foot là-bas et on a vu les installations. Il y a un vrai travail de fond qui est salué par la FIFA d'ailleurs.
Mais quand Martin s'est arrivé, il devait y avoir une D1. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, vous avez une D1, une D2, une D3, vous avez des U19, des U17, des U15, vous avez une D1 féminine, vous avez U19 féminine ou U15 féminine. Enfin, donc c'est-à-dire qu'ils ont réussi à mettre ça en place. Ils ont un championnat avec 14 équipes.
Un centre de formation à Nouakchott aussi.
Ah, bien sûr, ils ont créé depuis 2 nouveaux terrains. Donc, alors c'est des synthés, hein, il y a des synthés. Il doit y avoir 4 terrains à Nouakchott, il doit y avoir 10 équipes de Nouakchott sur les 14 équipes. Alors, c'est pas que je connais par cœur le football mauritanien, mais j'en ai discuté avec Corentin Martins qui m'a expliqué un petit peu tout ça. Et vous avez 10 équipes. Donc après, il faut même trouver le moment où les unes et les autres vont s'entraîner, puisque quand vous devez vous entraîner sur le même terrain. Donc ça veut dire qu'il y a eu un vrai travail de fond. Il a pas qualifié l'équipe pour la CAN, il a pas été viré pour autant. C'est-à-dire qu'à un moment, on a décidé de travailler. Quand il a débuté, il avait, je crois, 17 joueurs au pays. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ils sont quasiment tous à l'étranger. Et donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. On a réussi à dégoter des joueurs. Ils sont partis s'aguerrir ailleurs.
Ils ont fait un travail de détection des binationaux aussi. Ils sont allés dans les clubs, démarcher les joueurs, leur parler.
Ousmane Dembélé, le connaissait.
Leur proposer peut-être si ça les intéressait d'intégrer la sélection.
Et Ousmane Dembélé, champion du monde.
Le travail
France,
paye petit à petit.
Et qui joue au Barça.
Voilà, pour qu'on sache.
Abdel Djadaoui, justement, est-ce que c'est pour vous une belle histoire que celle de la Mauritanie qui crée un peu une émulation d'en haut et qui irrigue finalement son réseau maintenant sportif?
Effectivement, je pense que c'est une équipe surprise dans ce groupe, hein, parce que dans le football, il y a toujours des surprises. Et là, avec tout le travail qui a été fait par Corentin Martins, la fédération et compagnie, donc
forcément, ça peut donner un résultat un jour,
sûr,
c'est ça.
Puis il y a la confiance. Il y a plusieurs, comme l'a dit Patrick, c'est plusieurs années de travail. Donc au bout de 3 ans, on commence à récolter les fruits. Donc là. Je pense que la récompense est venue avec un groupe solidaire, un groupe qui joue au football et connaissant Corentin Martins, je pense que c'est un bon footballeur. Donc il a dû quand même mettre sa patte.
Et oui, évidemment. À noter qu'il y a eu 2 matchs hier qui ont été disputés dans cette coupe, enfin
ces
éliminatoires. C'était groupe F et groupe K. Et Éthiopie-Kenya, ça s'est terminé sur un 0-0. C'est dans le fameux groupe, on y reviendra, du Ghana et de la Sierra Leone. Et puis Zambie, Guinée-Bissau, avec une victoire des Chipolopolo. C'était aussi sur le score de 2-1.
La première victoire des Chipolopolo dans ces poules éliminatoires.
Ça leur fait
j'espère que ça va les lancer parce que c'est quand même une belle équipe.
On aura aussi le Cameroun qui jouera à Yaoundé au cours du week-end. Alors le Cameroun, c'est un truc un peu à part puisque non, je parle pas de l'équipe, mais de sa situation dans le groupe, puisque ils sont dans le groupe B, mais comme ils sont qualifiés d'office étant pays organisateur, bon, en tout cas.
Mais alors, ce qui est marrant, c'est que le Maroc est dans le même groupe.
Oui.
Donc si la CAF changeait le pays organisateur et attribuait la CAN au Maroc, il n'y aurait pas à changer le règlement. Le hasard fait bien les choses.
Hein. C'est pas fixé encore.
Non, c'est pas fixé.
On le saura plus tard. Ouais, fin novembre. D'accord. En tout cas, ce Cameroun qui jouera à Yaoundé, alors Clinton J est blessé. Alors, il avait été convoqué blessé d'ailleurs. Vincent Aboubakar, entre temps, s'est gravement blessé, rupture des croisés.
Ça, c'est un coup dur, ça.
Bon, il y a Clarence Seedorf. Que dire de cette équipe camerounaise rapidement?
Et ils viennent de perdre aussi Bassogog, qui avait été rappelé, puisqu'apparemment il sera absent pour le premier match, peut-être présent pour le deuxième.
Il joue contre le Malawi.
Malawi, hein. Pour le match retour. On demande à voir. On sait pas grand chose.
Au Comore.
Ils sont le match au Comore. C'était très faible. Même des joueurs dont on attend beaucoup plus, comme Choupo-Moting, qui a été titularisé au PSG, ça avait été en grande difficulté. Alors, je laisse un peu de temps quand même à Seedorf, parce que la moindre des choses, il vient d'arriver, c'est qu'il connaisse ses joueurs, qu'il connaisse l'environnement, qu'il connaisse le contexte, tout ça il ne maîtrise pas. C'est quelqu'un qui vient, il arrive de l'extérieur et il se dit bah tiens, je vais tenter de prendre des joueurs à droite à gauche. Rappelez-vous ce qu'il avait dit au départ, je veux pas de joueurs évoluer en Chine dans les championnats exotiques. Il a bien compris parce qu'il a eu un petit peu l'intelligence de comprendre parfois il vaut bien prendre des joueurs même s'ils sont pas dans les championnats européens mais qui peuvent apporter beaucoup à la sélection.
Qui ont de l'expérience.
Un tout petit mot, je trouve quand même que la manière d'approcher et de convoquer les joueurs binationaux laisse à désirer. Le mois dernier, ils ont convoqué Adrien Tamézé de l'OGC Nice sans lui demander son avis. Et il n'est pas venu parce que ça ne l'intéresse pas. Et cette année, ce mois-ci, pardon, c'est Dimitri Oberlin, jeune joueur suisse d'origine camerounaise.
J'ai pas l'impression qu'il va y aller.
Il a choisi d'aller avec les espoirs suisses. Donc il ferait mieux de contacter les joueurs en amont, je pense.
Si vous avez les numéros, Patrick, il faut envoyer
les aider.
Je bosse pas à la FECA foot.
Allez, on passe au dernier sujet. On passe au dernier sujet de cette émission.
Avec Thomas Lemar qui a levé la tête, il a vu Valère Germain au deuxième poteau qui est seul. Lemar qui insiste, petit ballon pour Valère Germain. Et ça y est, l'AS Monaco est officiellement champion de France de Ligue 1 2016-2017. L'AS Monaco peut savourer, peut exulter, peut communier avec son public ici au Stade Louis II. 8e titre de champion de France pour le club de la Principauté, le premier depuis 2000, depuis 17 ans.
Et oui, toutes les belles histoires ont une fin, paraît-il, et même celles que l'on croyait les plus belles et les plus durables. Ce matin, un communiqué a officialisé le divorce entre le club de Monaco et son entraîneur, Leonardo Jardim. Jardim, très sportif, on va dire, et diplomate, qui a dit « Une grande histoire se termine, c'est un honneur d'avoir représenté l'AS Monaco. Merci pour l'opportunité, merci pour le soutien, merci pour l'affection. » Monaco.
Merci pour le chèque.
Et ses chaleureux supporters. Ah, il n'a pas écrit ça.
Ah, bah, bizarrement, il a oublié. C'est le seul truc qu'il a oublié.
Ça, c'est le sous-texte.
Alors, est-ce que ça vous paraît triste de voir cet entraîneur viré, vu le bilan qu'il a accumulé? Alors, je demande ça à un ancien entraîneur, alors joueur, mais surtout aussi entraîneur, voire sélectionneur, Abdel Jadaoui. Est-ce que vous comprenez, alors qu'on avait l'impression que c'était un magicien, qu'avec sa tactique, il arrivait à mettre en valeur tout le monde et que sans doute cette équipe serait pas rester 18e du championnat.
Oui, malheureusement, c'est le lot de tous les entraîneurs qui n'ont pas de résultats.
Ouais, mais lui, tous les ans,
malheureusement pour lui, cette saison, il a perdu beaucoup de très très bons joueurs.
Trop de
très bons joueurs et ils n'ont pas été remplacés par les jeunes qui l'a lancé. Et donc ça, c'est la loi de tout entraîneur ou sélectionneur. Ça, c'est... On n'a pas de résultat, donc à un moment donné, le public, les dirigeants, tout se mêle.
C'était une fin de cycle.
Mais Nabil, est-ce que c'était lui le responsable des résultats actuels du club?
Bon, alors moi, évidemment, il y a une question de fusible dans cette histoire, et puis surtout peut-être donner un second souffle, un second étage à la fusée Monaco, au projet monégasque qui a évolué entre-temps, évidemment de manière structurelle. c'était un mécano génial, puisque chaque saison, il perdait des joueurs. On lui ramenait des joueurs, peut-être certains, il les connaissait pas, puisque c'est aussi un projet de plaque tournante pour développer des joueurs, les revendre, gagner de l'argent, on va pas refaire l'histoire. Des cadres qui sont en partie en déclin, à l'image par exemple de Jemerson, ouais, ou Radji, bon, Glick, Radji, Jemerson, Falcao à mon avis qui s'interroge sur son avenir, mais je pense qu'il a quand même une partie de responsabilité dans ce début de saison, parce que en termes d'ingrédients, en termes de matos, il y a quand même la possibilité de faire mieux que 18e quoi, sur une séquence de 10 matchs en Ligue 1. Et puis peut-être qu'il a perdu le mojo, peut-être que lui aussi a besoin d'un nouveau défi pour également se renouveler.
Milieu de saison.
Soyons sincères, que Monaco puisse passer en partie à côté, je pense qu'ici tout le monde pouvait s'y attendre pour des raisons structurelles de renouvellement pas toujours à la hauteur, mais que Jardim soit viré au bout de 10 journées,
c'est ça, la
je
question.
Pense qu'ici autour de la table, personne n'aurait mis une pièce.
Eric.
Oui, non, c'est ce qui se murmure, apparemment. On parle de lassitude de Leonardo Jardim.
La saudade, on dit.
Saudade.
Saudade, excusez-moi pour la prononciation.
Un peu comme Didier Deschamps à son époque, aussi à la tête de Monaco, qui était parti aussi au bout de quelques matchs.
Oh, mais c'est parce que moi,
je vous avoue, je trouve ça absolument incroyable.
Non, mais juste
ridicule. Parce
vous voulez rappeler son palmarès, ou si vous voulez, je vous le rappelle. Eric, rappelez-le ce palmarès.
Il y a cette année 2017, c'est le point culminant, évidemment, avec la demi-finale de Ligue des champions, précédé l'année d'avant par un quart de finale, avec donc l'année 2017 le titre devant le Paris Saint-Germain, puis c'était podium chaque année en championnat, troisième malgré un très mauvais début, deuxième l'an dernier encore, donc effectivement
c'était un magicien.
Je trouve ça très complètement ridicule, parce qu'à un moment vous laissez au moins un minimum de temps, c'est au moins jusqu'en décembre, vous voyez si ça peut redémarrer, si vous pouvez redémarrer la
machine.
Mais voilà, j'ai maintenant un petit mais, pas le même que le tien, mais c'est quand j'ai lu les papiers que nous avons fait dans l'équipe, par exemple, je me suis bien rendu compte que finalement ça arrangeait un peu les deux parties. C'est-à-dire que Jardim en avait peut-être un peu marre. Il a pris un méga chèque, comme il voulait pas reconstituer l'équipe tous les ans.
Vu qu'il a fait gagner au club en vendant tous les joueurs qu'il a fait vendre, c'était peut-être aussi un bon retour.
Là, c'est un argument que moi j'écoute pas tellement, parce que je pense que les joueurs, vous savez, c'était des joueurs de très haut niveau. Mbappé, c'est pas lui qui l'a vendu. Mbappé aurait été vendu très cher.
Non, mais il a bien mis en valeur, Hervé.
Bah, il a mis collectivement le projet en valeur.
Il a
donc individuellement, il y a des joueurs qui ont été très bons à l'intérieur de ce projet-là. Mais penser que parce que c'était Jardim et c'est pas un autre, ces joueurs-là ne seraient pas été vendus cher, je pense que c'est une erreur. Mendy, par exemple, a toujours été adoré par Guardiola depuis que Bielsa en avait fait le latéral gauche talent. Mbappé,
il a fait progresser les joueurs quand même, Hervé.
Mais je dis pas.
Peut-être
mais
que d'autres entraîneurs les auraient pas fait progresser aussi comme ça.
Peut-être que d'autres.
Faut le reconnaître quand même aussi. Pas Mbappé. Mbappé, c'est l'exemple ultime. Tu peux le mettre partout, mais il y a peut-être des joueurs qui ont pris une valeur. Lemar, par exemple. Peut-être qu'il n'aurait pas réussi à Marseille avec un entraîneur.
En tout cas, le système monégasque existait avant lui.
Je voudrais juste finir. Mais peut-être que Lemar aurait aussi existé ailleurs. Simplement, ce qu'il avait réussi à faire, et ça, c'est d'ailleurs ce qu'on demande à un entraîneur, c'est de faire jouer collectivement d'une manière incroyable, qui fait qu'à un moment, évidemment, les individus dans le collectif se mettent en valeur. Ça, c'est logique. Donc, c'est sa qualité d'entraîneur. Il faut mettre en avant plus que le fait qu'il ait vendu des joueurs 40 millions ou 45 millions.
Patrick, est-ce que c'est injuste?
C'est pas injuste, puisque à Monaco, plus qu'ailleurs encore, le temps, c'est de l'argent. Et là, plus le temps passait, plus Monaco s'enlisait en bas de tableau, et plus, malheureusement pour Leonardo Jardim, pour qui j'ai beaucoup de respect, ça devenait inéluctable. Et en plus, j'ai l'impression qu'il s'est pas accroché à son poste, il n'a pas donné l'impression de vouloir actionner des nouveaux leviers. À un moment, on a l'impression qu'il était lassé, qu'il en avait marre, et qu'il s'est dit, je vais prendre un bon chèque et je m'en vais.
Abdel Jadawi?
Bah pour moi c'est pas Jardim qui
c'est pas injuste
c'est injuste pour moi
c'est injuste
pour moi parce que Jardim il a fait un super boulot, mais ils ont un président qui est un affairiste et qui s'est fait des bons chèques et il voulait qu'à chaque fois
ça continue.
Malheureusement, il est tombé sur une génération de jeunes qui n'ont pas remplacé ceux qui sont partis, et ce qui fait que.
Et les cadres ont vieilli en plus.
Oui.
Non, mais de toute façon, il va rebondir, Jardim.
Oui, je pense que maintenant, on va se l'arracher. On va avoir son nom fleurir dans tous les clubs.
Quand on voit Emery qui était à la rue au PSG, Arsenal,
qui brille ailleurs.
Donc, ça veut dire.
Je rappelle ce match des Black Stars. Ça sera dimanche après-midi du côté de Albert en Picardie, dimanche à 15h.
Pas Albert de Monaco, hein.
Non, c'est pas le même, là c'est au nord. Merci beaucoup Abdel Jadawi d'être venu dans Radio Foot.
C'est avec plaisir.
Merci aussi à Pierre Guérin qui m'a aidé à préparer l'émission et à Laurent Salerno qui était à la réalisation. Merci beaucoup messieurs et à demain.